2 4 si j'en avais. Et dans mon insolence jeunesse, je regardais les visages de tous les paroissiens et jaugeais leur foi à leur sourire. Quelques années plus tard, j'apprends que cette phrase, nous dit-on, venait de Nietzsche, ou en tout cas l'idée. Alors tout de suite, elle m'a beaucoup moins plu. Comme quoi, on se fait influencer aussi par celui qui l'a dit. Et pourquoi? Parce que probablement, je me suis aperçu que je n'étais pas toujours souriant, mais que mon sourire ne reflétait pas forcément exactement ma foi. Il pouvait m'arriver d'être triste, sans perdre la foi pour autant. Et quelquefois, on trouve bien des motifs. Regardez donc ce que notre brave Isaïe vient de nous promettre. Que les yeux des aveugles verront, que les boiteux bondiront, que douleur et plainte s'enfuiront. Eh bien, ce n'est pas encore accompli. Il y a encore des choses à faire de ce sens-là. Et quand on attend une promesse et qu'elle ne semble pas réalisée tout de suite, il peut y avoir des moments où on se sent triste. Triste de ne pas posséder tout simplement ce qui a été promis. Triste de ne pas avoir reçu l'objet de la promesse. Ça peut être une vraie tristesse. Et en même temps, Jésus s'appuie sur cette prophétie d'Isaïe pour faire dire à Jean-Baptiste ou à ses envoyés que cette prophétie est déjà réalisée en partie par lui. Cette prophétie qui annonce le salut, Jésus la réalise encore maintenant. Et donc, nous pouvons nous réjouir. Donc, curieusement, dans l'état où nous sommes, nous pouvons avoir comme une espèce d'arc-en-ciel dans le cœur, de pleurer en même temps le fait que tout ne soit pas complètement réalisé de manière universelle et définitive, et pourtant que cette salle est déjà. Et qu'il peut donc coexister une certaine tristesse et une certaine joie. Mais il y a un autre type de tristesse qui est beaucoup plus gênant. J'ai connu une vieille dame qui était d'une tristesse qui m'avait frappé. Je la voyais tous les dimanches, habillée de noir, des pieds à la tête, et je crois que je n'ai jamais pu sourire. On sentait qu'elle portait comme le poids du monde sur ses épaules. Un jour, j'ai discuté un peu avec elle, elle m'a raconté une partie de sa vie, et en particulier un événement extrêmement injuste qu'elle avait vécu, mais d'une injustice, je ne vous ferai pas de détails ni de description, mais qui m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place, tellement le cas était énorme. Et elle a conclu ce petit entretien que nous avons eu en disant « Si par hasard je me surprends un jour ou l'autre à sourire, c'est comme si un poignard me transperçait le cœur. » Face à cette dame, il se trouve que mon cœur a été partagé lui aussi. À la fois, j'étais un peu bouleversé par ce qu'elle m'avait raconté et ce qu'elle endurait. Et en même temps, pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je n'ai pas bien su quoi, surtout. Par la suite, on m'a mis sur la piste. Dans un enseignement, un jour, quelqu'un nous a parlé de notre rapport à la justice comme étant un rapport de l'ordre du deuil, avec toutes les étapes un peu classiques que les psychologues du deuil nous développent. Mais parfois, il y a des étapes qui bloquent. L'injustice que j'ai subie est tellement grave que je ne peux absolument pas la relativiser. Je ne peux pas dire que c'est pas grave. Je ne peux pas dire que ça ne m'a rien fait. Je ne peux pas dire que je peux tourner la page. Alors je reste dessus. Mais je reste dessus d'une manière volontaire. Je décide que cette tristesse m'habitera pour que je me persuade bien, et voire même que je persuade les autres, que ce que j'ai subi, c'est intolérable. Et voilà un autre type de tristesse. Ce n'est plus la tristesse du sentiment qui nous habite, c'est la tristesse qu'on décide de faire habiter en nous. Et cette tristesse-là, elle est un piège, elle est redoutable. Elle n'est pas toujours consciente, hein, ou pas pleinement. Cette tristesse-là, elle bloque l'espérance en quelque sorte. Comme si Dieu ne pouvait plus entrer dans ce qui nous a, dans ce que nous vivons. On dit qu'un jour le curé d'Ars avait prêché en disant « Si j'étais triste, j'irais me confesser tout de suite. » On pourrait lui répondre « Être triste ne contrevient en rien au commandement ni de l'Ancien ni du Nouveau Testament. Pourquoi faudrait-il s'en confesser ?» S'il était là, je pense qu'il nous répondrait justement de ce genre de tristesse qu'on décide. Parce qu'elle s'oppose à l'espérance. Parce qu'elle s'oppose à ce que l'Esprit Saint est capable de produire en nous. Parmi tout ce que l'Esprit produit, il y a la joie. Et cette joie, on sent bien qu'elle peut coexister avec la première tristesse, mais pas avec la deuxième. Aussi, j'en ai fait moi-même l'expérience plusieurs fois de me confesser d'être triste. Et je peux vous promettre qu'il y a quelque chose de l'ordre du petit miracle. Vous savez, quand on est énervé par un peu tout, qu'on a le goût de rien, que tout nous agace, et qu'on n'a pas envie finalement de sortir de cet agacement. Voilà ce genre de petite tristesse que j'ai pu confesser plusieurs fois dans ma vie, et encore pas si longtemps. Et Dieu opère. Elle s'en va, sans que rien ne l'a fait. Il est beau de pouvoir se laisser consoler par Dieu, par les autres, par la beauté des choses. Mais de se laisser faire plutôt que de garder en soi.